À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Retrouver la source intérieure », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
La fois passée, nous parlions de vivre au niveau du cœur profond, après avoir réfléchi sur l'importance du silence pour pouvoir entrer dans une expérience spirituelle. Je vous disais que nous avons à retrouver notre cœur profond parce que on a tellement mis en valeur la démarche rationnelle en Occident que nous l'avons fait au détriment d'une autre dimension de notre être qui est justement cette profondeur qui n'est pas purement affective. Cœur profond ne veut pas dire sentiment. Nous le verrons tout à l'heure. Et intelligence du cœur nous renvoie justement à cette réalité qui fait que nous sommes capables de comprendre des choses par une certaine intuition, par une façon de ressentir et de goûter, qui peut parfois aller au-delà de la raison pure. Bien sûr, c'est important que les deux soient complémentaires. Il ne s'agit pas maintenant de s'abandonner simplement aux intuitions, à l'affectivité, sans qu'il y ait aussi un effort de distance critique, de raisonnement. Mais en même temps, il est important de voir que quand on a démontré les choses de point de vue rationnel, on n'a pas forcément atteint la réalité telle qu'elle est vécue et telle qu'elle s'offre à nous. Respecter le mystère, respecter l'invisible, c'est vivre un chemin d'intériorité. Il y a des gens qui sont convaincus que l'intériorité n'existe pas, que tout ça c'est de l'ordre du psychologique, mais pris dans un sens péjoratif, que tout se passe au niveau de fantasmes, de l'imaginaire, comme si, lorsque l'on rentre dans une démarche d'intériorité, on devenait complètement irrationnel. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, déçues par la rationalité, déçus par l'approche des sciences ou des techniques, ont basculé dans le pur imaginaire, dans le pur irrationnel. Et nous savons qu'il existe des groupes ou des techniques qui profitent de ces demandes. Nous ne nous situons absolument pas là. En tout cas, ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il y a dans l'homme d'autres dimensions que ce qui peut rendre compte de l'extériorité des choses. Et surtout, que nous n'étouffions pas notre intuition, nos capacités spirituelles, notre vie intérieure, qui sont liées à notre désir profond. Nous retrouvons ici le désir, ce désir qui va au-delà des besoins. Ce mouvement fondamental de notre être qui nous tourne vers un au-delà, vers un absolu. Nous l'avons dit, la mort du désir, c'est la mort de l'humanité, car il touche ce qu'il y a de plus humain et en même temps de plus divin en nous. Donc s'engager sur un chemin d'intériorité et de transfiguration, c'est renouer avec les profondeurs de notre désir qui nous dit « plus est en toi ». Ceux qui croient avoir résolu, satisfait tous leurs besoins, n'ont pas répondu au problème du manque fondamental, nous l'avons vu. Or, que se passe-t-il aujourd'hui ? Lorsque l'on ressent une frustration par rapport à la raison. Eh bien, il y a une certaine redécouverte de l'affectivité et de l'émotion, des sensations, et cela de façon parfois complètement débridée. Il y a une sorte de retour du refoulé par rapport à l'émotionnel, par rapport au perceptif. Alors, cela peut se passer de façon plutôt positive. Nous pouvons effectivement, grâce à un travail sur nous-mêmes, grâce à des pratiques de chant, de danse, de relaxation, etc., retrouver des perceptions et des sensations qui nous permettent de retrouver un équilibre également. mais nous savons aussi qu'il y a toutes sortes de propositions de travail sur l'émotion qui ne sont pas toujours très sérieuses, avec des thérapeutes autoproclamés ou des gourous plus ou moins officiellement déclarés. Et alors on propose de pousser les émotions jusqu'à leur paroxysme, parfois même d'arriver à des modifications des états de conscience. On pousse l'affectif ou l'imaginaire ou le fantasme le plus loin possible. Et alors, on pratique une grave confusion qui est de penser que si une émotion a été soudaine et intense, il s'est agi d'une expérience spirituelle. Et il faut faire attention, même dans des groupes d'église, on peut avoir ce risque-là. L'intensité de l'émotion ne nous informe pas sur la qualité de l'expérience spirituelle, ni sur la qualité d'une relation d'ailleurs. Nous en connaissons des gens qui sont à la recherche de façon insatiable de sensations, d'émotions, de groupes, d'expériences plus ou moins dramatiques, et plus on a pleuré, plus c'était vrai. Alors on travaille sur le corps, mais pour lui-même. Thérapie par la danse, thérapie par le rire, thérapie par la musique, tout cela peut être bon à partir du moment où on ne cherche pas des résultats pour eux-mêmes. Si cela nous permet une meilleure qualité de présence à nous pour une meilleure relation à d'autres, oui, pourquoi pas. Mais quand il s'agit d'une recherche de bien-être pour lui-même et de fuite de la réalité, là, cela pose question. Donc, à la fois, il ne s'agit pas de caricaturer les propositions alternatives en matière de recherche d'équilibre, de bien-être ou de santé. Mais il faut faire attention au risque de dérive, car l'homme étant un être fragile, il ne peut pas expérimenter n'importe quoi sans qu'il y ait des effets. Alors, dans la confusion entre expérience émotionnelle et spirituelle, quête d'absolu et quête de soi, une question s'impose. Si nous sommes sur un chemin de croissance, si nous sommes engagés dans une recherche personnelle, que cherchons-nous sur notre chemin? Sommes-nous à la recherche de nous-mêmes? Désirons-nous accroître encore plus le contrôle que nous pouvons avoir sur nous-mêmes? Est-ce à une plus grande maîtrise du réel que nous visons, avec un pouvoir plus efficace sur les autres, une maîtrise nouvelle du monde qui nous entoure? Nous en connaissons des personnes qui utilisent des grandes traditions mystiques pour acquérir une supériorité sur les autres. C'est connu que certains hommes d'affaires japonais pratiquent le zen afin d'émettre des ondes cérébrales qui augmentent la capacité de concentration et de lucidité et qui les rendent plus performants. En instrumentalisant une démarche spirituelle en vue d'un pouvoir supplémentaire, on prend un risque énorme. D'abord, on dévoie la spiritualité, l'homme se coupe de ses profondeurs, et puis le risque, c'est de prendre la place de Dieu. À ce moment-là, son être profond est malade, parce qu'il est dans la quête de pouvoir et d'avoir de nouveau, alors que le chemin spirituel est d'abord un chemin de démaîtrise. Alors sans doute, il fonctionne convenablement, peut-être même mieux que les autres, mais il s'est coupé de la source. Et au moindre échec important, il n'a pas de ressources en lui pour rebondir. Je crois qu'un certain nombre de déprimes naissent de ce rapport intéressé au monde et aux autres, qui est gratifiant lorsque ça marche, mais qui engendre solitude et angoisse devant l'avenir quand cela ne fonctionne plus bien. Et cette attitude-là est une maladie spirituelle autant que psychique ou morale. Et cela retentit sur le physique. Nous retrouverons cela lorsque nous parlerons des trois détresses. La peur de la mort, l'angoisse de l'absurde, l'isolement, de la coupure avec les autres. Et ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, la quête spirituelle est aussi une quête thérapeutique. On demande aux thérapeutes de donner un sens à la vie et au groupe thérapeutique un salut. Nous libérer de la peur, du non-sens, des fragilités, nous sauver de la solitude ou de l'échec dans nos relations. Ou bien inversement, on va demander à un maître spirituel ou à un groupe spirituel des thérapies, des rituels de guérison, afin de se sentir mieux, afin de mieux gérer sa vie. Alors ça ne veut pas dire que les groupes spirituels n'ont pas à accueillir ces demandes avec un vrai discernement. Mais dans tout cela, il est important d'être attentif au fait qu'un chemin spirituel doit aussi être un chemin d'humanisation. Plus je m'humanise, plus je me divinise, dans le sens que l'image de l'être humain réalisé pour le chrétien, c'est le Christ, qui a servi de modèle pour la création de l'homme. Alors parmi les critères d'authenticité d'un chemin spirituel, je vous rappelle qu'il y a cette croissance en liberté intérieure, ce qui implique un renoncement à tout maîtriser, et une capacité de vivre des relations personnelles de plus en plus gratuites. Cette liberté, cette gratuité dans les relations sont des indices qui ne trompent pas et qui contredisent les logiques purement économiques. Il n'existe pas de chemin d'unification ou de sanctification qui ne soit un chemin d'humanisation et inversement. J'insiste là-dessus. Il ne s'agit donc pas de nier le rapport existant entre santé et salut, entre santé et spiritualité. Si notre démarche spirituelle ne nous enracine pas dans notre être profond et ne nous apporte pas un certain épanouissement sur le plan psychologique et humain, il y a quelque chose qui manque. Nous serions dans une démarche désincarnée, avec des risques de volontarisme, de moralisme, de culpabilisation. Nous pouvons être alors dans une forme de boulimie, d'ascèse et de toute-puissance. Ne confondons pas sainteté et perfection, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Par ailleurs, lorsqu'on est engagé dans une démarche thérapeutique, que ce soit avec un psychologue ou un groupe, et cela peut être nécessaire et bienfaisant, il est important de ne pas oublier la dimension spirituelle dans l'être humain, qui n'est pas du domaine de la thérapie, qui est de l'ordre de l'absolu, d'une transcendance, d'une profondeur, quel que soit le nom que nous lui donnions. Nous devenons étrangers à nous-mêmes et à nos profondeurs à force de vouloir continuellement mettre en valeur notre moi, ce petit moi qui est l'opposé du moi profond, qui sans cesse veut avoir, pouvoir, savoir, mais qui au fond n'est pas ouvert au désir, n'est pas enraciné, n'est pas intégré dans la personnalité. Alors oui, bien sûr, pourquoi ne pas utiliser les sciences humaines et les propositions qui nous sont faites ? Faisons-le, mais en gardant cette gratuité et en restant surtout ouvert à nos profondeurs. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je signale que j'étais en train de parler de l'unification du cœur profond et de l'importance de ne pas tout réduire à une approche purement intellectuelle ou psychologique. Je tiens à préciser que je crois qu'il est important à certains moments de faire appel à des thérapeutes, de faire appel à des praticiens, et qu'il ne s'agit pas du tout d'opposer une démarche spirituelle et une démarche professionnelle. Le danger serait de penser qu'il suffirait de pratiquer un certain nombre de rituels, ou même d'avoir un bon accompagnateur spirituel pour régler les problèmes de physique, du point de vue physique, d'un point de vue psychologique. Je crois qu'il est important de respecter les champs de compétences. Et donc, autant il me paraîtrait douteux qu'un thérapeute, qu'un psychologue joue au spirituel, autant il me paraît nocif qu'un spirituel joue, je dis bien, au psychologue. Certains spirituels sont formés à la psychologie et ont donc des clés pour pouvoir comprendre certaines situations. Mais là encore, ne mélangeons pas tout. Et nous savons que l'expression psycho-spirituelle est ambiguë, puisqu'on mélange dans une même expression deux champs de recherche différents. Il est intéressant d'être attentif à cela pour éviter effectivement de tomber dans des confusions qui peuvent avoir des conséquences graves pour les personnes qui sont concernées. Je vous parlais donc du cœur profond. Dans de nombreuses traditions religieuses, l'idée d'un centre en l'homme existe. Centre que l'on peut localiser physiquement, lieu où se rassemble et d'où jaillit la vie. J'ai déjà parlé du hara pour les Japonais, que l'on retrouve, c'est une expression japonaise, mais on le retrouve dans le bouddhisme, et cela définit ce point qui se trouve à quelques centimètres du nombril au cœur de nos viscères. Cette localisation repose sur une observation de la physiologie humaine et de la façon dont le corps somatise les états affectifs, les émotions. Et dans notre perspective, où le corps, l'affectivité et le mental sont appelés à s'harmoniser sur un chemin spirituel, ce centre est important. Centre de gravité aussi lorsque l'on prend une assise méditative sur un petit tabouret et que l'on rentre dans une respiration ample où le diaphragme est concerné. Centre qui nous fournit des signaux sur notre état mental et affectif. Lieu où les forces instinctives se concentrent et sont mobilisées pour la décision et l'action. Et tous ceux qui ont eu l'occasion de pratiquer un art martial d'Extrême-Orient en ont fait l'expérience, judo, aïkido, kendo, tai chi, être centré. Retrouver le centre de gravité, retrouver le centre vital. Et dans la méditation orientale, il s'agit souvent aussi de se diriger consciemment vers ce centre en vue d'harmoniser la personne. La concentration a un rôle important à jouer. Et selon ces traditions, c'est un lieu où se concentre l'énergie humaine qui est en relation avec l'énergie cosmique. Ceux qui pratiquent le yoga le savent bien. Mais on ne peut pas dire que c'est du même ordre que ce que nous entendons par cœur profond, cœur dans la tradition judéo-chrétienne, qui n'est pas simplement le lieu des émotions. Je vous ai parlé d'une intelligence du cœur. Et dans la Bible, le cœur désigne la plupart du temps la faculté spirituelle par laquelle l'être humain entre en relation avec Dieu. Alors les mystiques ont essayé de trouver des expressions. Je prends ici quelques mystiques chrétiens. Saint Augustin, par exemple, parlera du tréfonds ou de la cime de l'âme. Toller, mystique rhénan, parlera du gemüt. Sainte Thérèse d'Avila parlera de l'esprit de l'âme. Saint Jean de la Croix parlera du centre de l'âme. Sainte Jeanne de Chantal parlera de la fine pointe de l'âme. C'est difficile à discerner, je dirais, et aussi à définir. C'est une faculté spirituelle en l'homme qui a besoin d'être éveillée, qui demande une initiation, comme un sixième sens qui n'est pas spontanément actif chez la plupart des personnes. Certains enfants sont spontanément portés à vivre à ce niveau-là, mais ce n'est pas général, et si ce n'est pas entretenu, cela peut vite disparaître. On y perçoit aussi l'idée d'intuition spirituelle. Dans la Bible, quand on parle du cœur, il est dit, par exemple, que l'homme honore Dieu des lèvres, mais que son cœur est loin de lui, dit Isaïe. Saint Paul parle du cœur inintelligent et enténébré. Et à Ézéchiel, Dieu promet de donner un cœur nouveau qui remplacera le cœur de pierre. Dans l'anthropologie chrétienne, Dieu n'a pas seulement donné à l'homme les sens dont il a besoin pour entrer en rapport avec le monde sensible, pour s'en émerveiller et le gérer. Il lui a donné également un cœur pour entrer en relation avec lui. Ce cœur, quand il est éloigné de lui, doit retrouver sa capacité et sa profondeur. Dans la tradition chrétienne, on dira que le baptême et la réconciliation sont des sacrements qui sont particulièrement orientés vers le retour à cette profondeur du cœur dans toutes ses capacités d'aimer et d'entrer en relation. Nous voyons donc que cela va au-delà de l'affectivité. Car le cœur, qui est capable de Dieu, c'est-à-dire capable de faire l'expérience divine, est ouvert à cette réalité transcendante parce que l'homme a été créé à l'image comme à la ressemblance de Dieu. Il est donc ouverture au divin. Et c'est donc de ce cœur dont il est question ici quand on parle d'une source de vie et d'harmonie, de ce centre d'amour et de fécondité. Source intérieure à redécouvrir et à libérer sans cesse pour pouvoir se déployer dans toutes ses possibilités, pour être pleinement libre et vivant. Nous l'avons dit, c'est ainsi que Dieu désire et espère tout être humain, libre et vivant. Et cela ne demande pas d'être dans un état physique éblouissant, d'avoir résolu tous ses problèmes. Ce sont des réalités que nous pouvons vivre du cœur de notre fragilité, de notre vulnérabilité. Ce sont des réalités qui font partie de cette dimension divine en nous. Nous pouvons les retrouver, nous pouvons y travailler, quel que soit notre âge, quel que soit le lieu où nous sommes, quelle que soit notre profession, parce que nous sommes tous appelés à la rencontre. Puisque je parle d'apaisement du corps, je vous donne ici quelques conseils pratiques pour terminer, pour montrer comment on peut arriver à ce qu'on peut appeler le triple apaisement, physique, affectif, mental. Pour entrer en profondeur dans l'assise pour ceux qui se mettent immobiles sur une chaise ou un petit banc ou dans une démarche de méditation, il est important d'être attentif à s'apaiser à ces trois niveaux, physique, affectif et mental. L'apaisement corporel s'obtient par le travail de détente ou de relaxation. Il en a déjà des questions quant à la façon de se concentrer sur tel ou tel aspect, sur telle ou telle partie du corps. À partir d'une position d'immobilité et de concentration qui amène progressivement à une détente. Il faut toujours y revenir dans la pratique. Et on peut le faire à n'importe quel moment. On peut le faire au bureau, on peut le faire en attendant un bus. Il suffit simplement d'être attentif et de prendre conscience de la position que nous avons, de notre façon d'être assis, d'être debout, de respirer. Ce sont des petits points qui déjà nous mettent en présence d'autre chose que l'extériorité. Afin de pacifier le niveau émotionnel, il est important de se concentrer sur la respiration, non pour la forcer ou la contrôler, mais pour l'observer et la laisser se déployer naturellement. Au début, on le fait plus consciemment. Je renvoie à ce que je disais sur la respiration qui fait aussi partie du système volontaire. Alors bien sûr, on va essayer de renvoyer la respiration vers le bas du diaphragme quand on expire. On va être attentif à cela en mettant par exemple une main sur le ventre pour voir comment il se soulève, il bouge quand on fait un exercice de respiration profonde. Mais petit à petit, on laissera la respiration se faire naturellement. Et à l'occasion d'une expiration profonde, on peut laisser s'en aller l'émotion, la tension. Et c'est souvent quand nous prenons une position d'immobilité dans le silence que nous prenons conscience que nous étions agités ou préoccupés par une émotion. Il est bon d'en prendre conscience pour pouvoir ensuite prendre une distance par rapport à elles. Il ne s'agit pas de les refouler ni de les ignorer complètement, mais de ne pas nous laisser envahir par elles. Quitte à ce que, par la suite, lorsqu'on aura terminé son temps de silence et de prière, on y revienne pour creuser ce qu'il y a derrière telle émotion négative. Parce que si cette émotion, si ce sentiment négatif me poursuit, c'est souvent le signe qu'il y a en moi un besoin mal géré, peut-être un problème relationnel à résoudre. Donc au moment de la respiration et de la rentrée dans la méditation, laissant s'éloigner ces émotions dans ce mouvement, je me lâche, je me donne, je m'abandonne, puis ensuite reprendre et accueillir le souffle dans « je me reçois », dans le sens « je me reçois de mon Dieu, je m'accueille de mon Dieu qui me donne la vie ». Et nous sentirons la paix nous envahir et nos émotions revenir à leur juste place. Et puis par la suite, eh bien, il sera peut-être utile d'aller creuser ce qui ne va pas en moi. Donc nous avons vu, pour le corps, pour l'émotion, voyons maintenant au niveau mental. Nous savons que quand nous entrons dans le silence, nous sommes presque immédiatement envahis par les idées et les soucis, les projets, les activités. Moi-même, j'en fais l'expérience quotidiennement. Quand je veux prendre mon temps de méditation, la première chose qui apparaît, c'est l'agenda de la journée. Il faut bien que nous nous détendions par rapport à cela, que nous acceptions la gratuité d'un instant où nous vivons une présence, une qualité de présence à nous-mêmes. La présence à la respiration, précédée de cette détente corporelle, nous y aide beaucoup. Ne nous laissons pas envahir par nos pensées. Laissons-les s'en aller comme des nuages dans le ciel. Identifions-les, et puis si éventuellement par la suite il faut y revenir, nous le ferons. Mais dirigeons notre regard vers notre cœur profond. Et comme chrétiens, nous savons que quand nous sommes en contact avec notre cœur profond, nous ne découvrons pas une vacuité. Nous découvrons une présence et nous prenons conscience que notre vie a un sens. Et nous nous souvenons de cette parole du Christ. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Ce triple apaisement permet d'harmoniser notre être dans toutes ses dimensions et d'être présent à notre source intérieure.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.